bien au transversal. Cette semaine, toujours hors les murs, et je retrouve Jérémy Béchon, qui a la gentillesse de me recevoir dans les bureaux de la compagnie, juste alors qu'il est en pleine répétition de leur dernière création, puisque c'est la dernière création de la compagnie, Jérémy Béchon et Virginie Aymon. Donc, le spectacle s'intitule « Les rafles à Marseille d'un siècle à l'autre » et qu'on pourra voir sur la scène du Théâtre de l'Œuvre les jeudis 2 février, les 3 et 4 à 20h, avec une Virginie Aymon seule en scène, One Woman Show, mais pas vraiment ça, puisque vous êtes là, dans les coulisses aussi, et pas seulement Jérémy Béchon, puisque vous avez écrit ce texte.
Oui, c'est un solo où elle joue plusieurs personnages et avec beaucoup d'humour, beaucoup de poésie, beaucoup de délicatesse, puisque tous les personnages qu'on joue, même les pires, on dira, hein, même ceux qu'on veut dénoncer à travers l'écriture de cette pièce-là, il faut les aimer. C'est-à-dire que c'est toujours cette délicatesse-là et ce respect, et toujours de chercher la lumière dans les personnages. Et s'ils n'ont pas de lumière, s'ils sont extrêmement violents, de chercher la faille dans ces personnages-là. Et c'est une pièce qui est... Enfin, c'est un solo où elle joue plusieurs personnages. C'est très facile à suivre, par contre. Hein, c'est à partir de 12 ans. On pense qu'il faut que le théâtre s'adresse absolument à tout le monde et il reste un moment de divertissement et de spectacle. Mais son jeu est accompagné de toute une création sonore, d'un design sonore qui est fait par Tom Spectrum et accompagné de musiques qui sont composées par Frank Vraides. Et cet univers sonore répond au jeu de Virginie, illustre les ambiances de rue et donne même voix directement à la ville de Marseille, qui dans notre pièce est un personnage à part entière et qui prend la parole, qui introduit la pièce, qui des fois engueule les aménageurs de territoire, même si c'est une voix subliminale, mais le public en tout cas l'entend. Et donc c'est ce partenaire de son et puis de création de lumière aussi qui accompagne tout le long le solo burlesque et poétique de Virginie.
Donc Théâtre de l'Œuvre, Rémission de France, on aura le temps d'en reparler. Donc le coup d'envoi, c'est demain pour cette dernière création.
Ouais,
demain, jeudi 2 février.
C'est ça.
C'est bien ça.
Jeudi 2 février, c'est le grand lancement.
Le grand jour. ma question, justement, vous travaillez avec Virginie Aymon. De quelle façon travaillez-vous ensemble ? Comment est-ce que vous faites parce que l'écriture, c'est vous, mais vous dites qu'elle y a mis sa patte aussi.
Oui, bien sûr.
De quelle façon vous travaillez ensemble, sans vouloir vraiment rentrer dans le détail, mais...
Mais il y a... moi, j'écris la pièce de manière assise. Je dis ça parce que c'est important.
Oui.
Et puis, je fais lire les différentes scènes qui avancent au fur et à mesure à Virginie. Et là, on a travaillé comme ça. Et elle me dit, oui, c'est bien, mais il faudrait s'intéresser plus à la famille. Par exemple, des Lashkar qui émirent, il faudrait des conseils pour envoyer la pièce. Et puis, une fois que l'écriture est lancée, j'écris toute la pièce. Ensuite, je la lui soumets et on fait un premier travail à la table. Pas encore. Enfin, là, on a travaillé comme ça, où elle lit la pièce, mais en jouant directement les personnages. Parce que moi, j'ai écrit la pièce pour elle. Donc, en fait, je savais qu'à la première lecture, elle allait interpréter tel personnage sur cette piste, en fait. Donc, on puise dans la boîte à outils qu'on a créée depuis 20 ans ensemble. Et puis, suite, là, il y a énormément de corrections. Une première correction de texte qui se fait. Et puis ensuite, on travaille debout. C'est-à-dire, c'est en répétition directement avec les personnages qui prennent corps, qui sont plus seulement des voix. Ça se complexifie parce que du coup la partition s'enrichit et puis on expurge tout ce qui est en trop du texte pour être le moins littéraire possible, parce que c'est un des gros problèmes au théâtre.
Mais oui.
C'est qu'en fait, les metteurs en scène ont beaucoup de respect pour le texte et la littérature. Alors que nous, on pense que plus on a de respect pour ce texte, et plus il faut le malmener. À part certains grands textes.
À part certains grands textes
de Molière, qui est un comédien, c'est très intéressant. Molière est un comédien, donc à part certains maîtres comme ça, il y a énormément de textes de Tchekhov aussi. Je pense qu'on a beaucoup de mal à le couper, mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui pourraient être malmenés par les metteurs en scène, dans le sens que pour être fidèle au texte et le restituer aujourd'hui, pour le rendre le plus directement, il ne faut pas avoir peur de coupes pour aller directement à l'essentiel, à l'info, à l'émotion, et jamais se perdre justement dans les les fioritures ou les choses qu'on pourrait trouver jolies à l'écriture qui n'ont pas de sens dans l'action. C'est tout le temps l'action qui doit guider.
Vous allez toujours dans le même sens tous les deux, ou bien il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord et vous arrivez quand même à trouver un point d'accord. Comment ça se passe ?
Non, en général, c'est assez fusionnel et on est sur le plateau et non.
Vous êtes sur la même longueur.
On est toujours.
Ouais, sinon, ça ferait pas 20 ans que ça dure.
Sinon, ça ferait pas 20 ans. Non.
C'est
mais
ça.
C'est, ouais. Oui, c'est parce qu'on est. Ouais, non, je vois, il n'y a pas de confrontation au plateau parce que c'est la même, on nourrit sans cesse la même idée. Après, le but, c'est celui qui va avoir la meilleure idée au plus vite pour faire avancer.
Il n'y a pas de lutte de pouvoir entre là, c'est mon idée, non, c'est toi.
Non,
vous êtes vraiment ensemble. Au sein de la compagnie Manifeste Rien, vous êtes les deux principaux. Et oui. Vous écrivez, vous jouez, vous êtes ensemble. Si ça marche.
Ben le théâtre, après, il peut y avoir des tensions. Après, c'était Eugenio Barba, un metteur en scène que j'aime beaucoup. Ça m'avait rassuré. Il disait, vous savez, quand c'est normal qu'un acteur déteste son metteur en scène à un moment.
Oui.
Parce que quand vous lui faites faire 30 fois le même geste en disant non, un peu plus à droite, non, un peu plus à gauche, non, un peu moins fort, non, un peu plus ci. Donc, il y a des tensions.
Vous êtes un peu comme ça
Je suis.
Vous êtes pointilleux
Oui, extrêmement.
Sur la mise en scène
Sur la mise en scène, oui. Après, ce qui veut pas dire que le comédien ou la comédienne ne peut pas réinventer les choses, mais non, je suis extrêmement pointilleux. Oui, chaque chose doit être maîtrisée. Une sortie à un mètre près, ça change complètement le rythme. C'est indispensable de maîtriser à la perfection la partition qui a été inventée pour pouvoir être libre après dedans.
Et je cite toujours le papier d'Alain Perse du journal La Marseillaise. Une fois de plus, Virginie Hémon sera seule en scène. Virginie Hémon joue avec la délicatesse et l'humour qui lui sont propres. Les personnages d'hier et d'aujourd'hui, de Marseille et d'ailleurs. Elle joue également les mouvements de foule, l'affrètement de bus et de tramway pour aller à la gare d'Arinc, puis aux différents camps. Marseille est un personnage matérialisé par une voix familière et subliminale. Elle est la mémoire, l'histoire et l'actualité de la ville et de ses habitants. Virginie Hémon interprète près de 20 personnages sans jamais perdre la ligne directrice de la pièce qui sous-tend et lie chaque scène entre elles. De l'invisible, elle fait surgir des personnages, des situations, des objets qui métamorphosent et remplissent l'espace de jeu. Elle est à la fois maître du jeu et prise dans un dispositif de son et de lumière qui l'en serre, l'expulse et la libère. Je trouve que c'est un très beau papier d'Alain Perse qui donne toute sa dimension à ce spectacle et qui fait la place à la comédienne. Moi, en venant vous rejoindre, je pensais à Virginie Hémon. Je me disais que c'était une athlète. Parce que quand on la voit sur la scène, à quel point elle peut être physique, et pas seulement. Et il y a la voix, il y a les mots, il y a son corps qu'elle arrive à transformer. On arrive à voir... Buvez un peu d'eau, non ? Non, ça va. On voit vraiment à quel point elle arrive à incarner les personnages... y compris Marseille.
Oui, c'est
alors
ce que...
ça, j'ai hâte de voir.
Le personnage de Marseille, ça c'est une voix off. C'est le seul personnage qu'elle n'interprète pas elle directement. C'est un personnage sonore dans un son spatialisé. Spatialisé, ça veut dire que le son va véhiculer dans l'espace à la fois devant, à la fois derrière, comme on a l'habitude au cinéma, dans les grandes salles de cinéma. Ensuite, oui... C'est quelque chose que j'avais du mal à faire comprendre à Alain Perse, parce qu'il me disait, mais c'est une voix, comment une voix va pouvoir interpréter autant de personnages? Et je lui disais sans cesse, je disais, non, c'est pas une voix, c'est un corps.
C'est un corps.
Et effectivement, parce que la voix vient du corps, la voix vient du ventre, la voix vient des jambes, du sol, de l'assise au sol. Et oui, Virginie Hémon a une formation qui est complète, dans le sens où elle a fait de la danse. Et c'est extrêmement, ça se voit sans cesse sur scène, l'aisance qu'elle a avec son corps. Elle a pratiqué aussi beaucoup de théâtre corporel avec la compagnie de l'Arcane qui travaille sur la méthode de Grotowski, qui sont des metteurs en scène qui ont beaucoup travaillé comment le corps doit exprimer autant que le texte et comment
Absolument.
Le corps peut parler sans le texte et comment le texte n'est pas tellement important au théâtre. Donc nous, il y a énormément de textes, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'elle a tout ce bagage-là qui donne ce côté athlétique et tout en cachant sans cesse la performance.
Enfin, c'est-à-dire ça que, n'est pas, ça, voilà, n'est, c'est ça que, n'est jamais. On ne montre pas la performance,
voilà.
On voit juste une comédienne sur scène qui incarne les personnages et qui les incarne avec une telle aisance.
Oui, il y a énormément de fluidité dans ce travail, parce qu'après, le but, c'est justement d'être le plus fluide possible. Nous, c'est beaucoup inspiré de Philippe Robert, qui pour moi est un maître absolu, toute l'œuvre qu'il a fait en solo. Et puis on a continué de travailler avec notre propre style et le style du coup de Virginie Aymon, de fluidité de personnage, parce qu'on est sur des scènes extrêmement courtes, à la différence de Philippe Robert qui est sur des pièces beaucoup plus longues avec des séquences de personnages. Et là, c'est une succession de scènes très très rapides. Donc il faut qu'elle ait une fluidité absolue et évidemment du coup une maîtrise de son corps qui soit parfaite.
En tout cas, elle sait faire. On l'a déjà vu et on la verra. Alors, dans votre travail, vous choisissez d'adapter et de mettre en scène des œuvres issues de sciences humaines. Il y a eu Le massacre des Italiens de Gérard Noiriel, La domination masculine de Pierre Bourdieu et Tassadit Yassine, Les trois exils d'Algérie, une histoire judéo-berbère d'après Benjamin Stora, L'histoire universelle de Marseille d'Alessie Dell'Umbria, enfin Gérard Noiriel, que vous avez retrouvé avec le spectacle La Marseillaise, etc. Cette fois-ci encore et toujours, Marseille est au cœur de cette dernière création. Quel rapport, je me demandais aussi, quel rapport, Jérémy Béchon, vous entretenez avec cette ville de Marseille ?
Des choses qui sont parfois contradictoires.
On veut bien le croire.
Moi, je sais que j'ai rencontré Tassadit Yassine, Gérard Noiriel à Paris.
Oui.
Parce que j'ai dû fuir ma ville, quoi. Je supportais absolument plus Marseille.
Je ne peux plus vivre à Marseille. Je m'en vais.
Je la rêvais de la voir. C'était terrible. Hein. Des fois, je la rêvais de la voir brûler, comme dans le film Comme un aimant. Vous voyez. Bon.
C'était
il y a longtemps, mais j'habitais au Panier, qui est un quartier que j'aime beaucoup. Mais c'est parfois, on peut se sentir enfermé dans cette ville-là. Mais par contre, bon, j'y suis revenu. Dès que j'ai pu dans cette ville-là, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où je me sente chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à Marseille, et dès que je sors même du territoire de Marseille, mais ça, j'ose pas trop le dire, à part à des radios marseillaises.
On ne dira rien à personne.
Ici, ça va, mais comment expliquer que je ne me sens pas chez moi à Lyon, pas chez moi à Paris? Ça peut paraître du snobisme, mais ça l'est pas, c'est réellement.
Moi, je ressens la même chose que vous.
Voilà. Oui, voilà, parce que les Marseillais, je pense, partagent cette chose-là.
On aime et on a des difficultés parfois avec Marseille, mais c'est une ville qu'on aime.
Et c'est une ville qui, pour moi, est complètement liée. C'est comme le prolongement de mon être, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est extrêmement violent de l'avoir ravagée. Enfin, à mon sens, par les questions d'urbanisme aujourd'hui.
Parce que ce qui
se passe à Marseille ne me plaît pas. Donc, il ne s'agit pas de laisser la misère en place, mais les restructurations urbaines qui sont faites à Marseille ne me vont pas du tout et défigurent pour moi absolument la ville et la mutile. C'est cette voix d'ailleurs, la voix de Marseille d'ailleurs dans notre pièce, c'est une voix blessée, c'est une voix qui souffre et à la fois c'est quelque chose qui doit rester léger, quoi. C'est-à-dire que Marseille aussi, ça avance en permanence, on rencontre d'autres gens et c'est une histoire qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Aussi. Enfin, c'est paradoxal, c'est-à-dire que nous, on la traite avec tout ce qui a été oublié de l'histoire nationale, tout ce qui a été omis par le centralisme en France, mais avec toujours ce fait qu'on ne peut pas complètement se prendre au sérieux avec cette histoire-là.
Et heureusement. Jérémy Béchon, je vous propose qu'on se retrouve demain matin pour la suite de notre entretien. Nous allons écouter Bernard Lavilliers qui chante Charleroi. Ça vous va ?
Oui, parce que justement, je trouve que l'attachement que Bernard Lavilliers a à sa ville, je ressens la même chose avec la mienne.
À demain.
À demain, merci.
Merci.
Ma ville, comme je te vois, j'ai vu ma ville partir en vrille, j'ai vu ma ville partir en friche, j'ai vu ma ville comme je te vois, même si je sais que tu t'en fiches, que c'est pas ta ville à la finale, que je ferais mieux de me faire la main, même si je sais que tu t'en fiches. Je vois ma ville porte clouée,
maisons à vendre abandonnées, les canapés sur le trottoir où quelques vieux viennent s'asseoir. Je sens ma ville comme un amant trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes, les armes. Je traverse ma ville à perdre haleine, j'ai l'impression qu'elle raccourcit, que l'amour rôde sans merci. Est-ce de l'amour ou de la haine? Les enfants jouent à se braquer, les écoles à des kilomètres. On comprend mieux pourquoi les maîtres ne fréquentent plus nos quartiers. Une jolie fille, un mur en briques, des kilomètres de voies ferrées. Les rues ne sont plus éclairées, rien d'autre à faire que du trafic. Je vois ma ville comme un amant trompé par un riche imbécile. Je vois ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes.